Chapitre 3e, le mur qui marche. De nouveau, on ouvrit la porte percée dans la crypte de l'église et l'on s'engagea sous la rue Blanche. Par un détour, on arriva à la place de la Trinité. Là, nous passâmes dans le grand couloir qui se trouve sous la rue de Châteaudun. Nous nous trouvâmes bientôt à quelques 10 mètres de la rue Bourdaloue, qui fait l'un des côtés de l'église Notre-Dame de Lorette. « Halte !» dit Martin Numa. « Tenons-nous les uns près des autres. Ne bougeons plus. » Tâchons même de faire le moins de bruit possible en respirant. » Puis il demanda à Prosper, tout doucement, « Vous avez bien mis les boulettes ?»«
Oui, chef, tout a été fait. C'est moi-même qui les ai mises. »«
C'est bien. »
Alors il dit à Philippe,
« Préparez la toile et attendons. »
Qu'était cette mystérieuse toile?
J'allais donc savoir ce que contenait le singulier paquet de Philippe.
À cet endroit, le souterrain formait un coude assez brusque, remontait vers la rue Saint-Lazare pour aller rejoindre le boyau qui, passant sous cette rue, se trouve sous le carrefour de la rue Notre-Dame de Lorette et de la rue des Martyrs, longeait la rue Lamartine et remontait par la rue Milton. Nous attendîmes ainsi assez longtemps. Tout à coup, Martin Numa, qui se trouvait un peu en avant, revint en arrière nous rejoindre, s'élança derrière Philippe et Prosper et leur dit
« Étendez la toile, les voilà !»
Prosper et Philippe prirent chacun par un bord une toile grisâtre, noirâtre, exactement de la couleur de la muraille. Ils l'étendirent en haussant le bras et arrivant à la hauteur de la voûte comme un rideau. Derrière eux, nous nous trouvions Martin Numa et moi. Martin Numa me passa une touffe de coton imbibée de menthol. Prosper et Philippe en étaient munis également.
« Respirez ceci, me dit-il, afin de ne pas éternuer, car la toile est enduite d'un produit assez fort à odeur très poivrée et saupoudré d'une poudre impalpable de ce piment extrêmement piquant que l'on appelle piment des oiseaux. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. »
Nous attendîmes encore. Martin Numa tout à coup me toucha doucement le bras.
« Écoutez, voilà des bruits de roues. Vous les connaissez maintenant ?»«
Oui. »
« Écoutez attentivement et vous allez percevoir le bruit des pas des gens qui arrivent. »
Je tendis tant que je pus mes oreilles, cherchant à aiguiser autant que possible mon sens auditif, et j'avoue que je n'entendais rien.
Martin Numa me dit « Les voilà, ils arrivent tout doucement. »
Puis, ayant écouté attentivement encore, il dit
« Ils ont lancé en avant leur service d'éclaireur. »
Cette fois, je perçus, non loin de la toile près de laquelle nous nous trouvions, comme un reniflement, le souffle que ferait un chien en quête. Alors, je compris. Martin Numa avait fait enduire cette toile qui nous protégeait d'un produit chimique que les chiens aiment peu et de cette poudre de piment qui, entrant dans les narines du chien, devait non seulement le priver de tout sens olfactif, mais lui causer dans le nez une douleur assez grande pour lui enlever à tout jamais l'envie de renifler et de se côté. Le chien parcourut tout le couloir. Il descendit jusqu'à nous. Nous l'entendîmes rôder près de la toile, renifler. Puis, après s'être ébroué, s'en aller rapidement et remonter dans le couloir de la rue Saint-Lazare.
« Bon, » dit Martin Numa, « ça a réussi. Le chien ne viendra plus nous flairer. Nous voilà tranquilles sur ce point. Il galope dans le couloir de la rue Saint-Lazare. Il ne trouvera rien et reviendra auprès de ses maîtres qui auront tout à l'heure une assez forte surprise. »
Peu après, nous entendîmes encore le chien passer en courant et en soufflant de plus en plus fort. Il n'avait rien trouvé dans le souterrain. Il n'avait pas donné de la voix et revenait auprès de ses maîtres. Ceux-ci s'étaient avancés et maintenant il se trouvait presque à la hauteur du souterrain dans lequel nous nous tenions.
« Attention !» dit tout bas Martin Numa à ses deux aides, « que rien ne bouge !»
Prosper et Philippe étendirent encore la main. Du pied, ils pesèrent sur le bout de la toile qui traînait à terre, afin de la tendre autant que possible, et ils demeurèrent d'une immobilité parfaite, comme à côté de mur. Je vis sur la voûte une lueur se promener de droite à gauche, en haut. La lueur descendit sur la toile, la parcourut entièrement et s'éloigna ensuite. On n'avait rien vu, rien deviné. Peu après, la lumière reparaissait en sens inverse, de gauche à droite, parcourait à nouveau dans l'autre sens la toile, puis disparaissait définitivement. Alors, Martin Numa touchant doucement le bras de ses deux aides, ceux-ci avancèrent, tenant toujours leur toile devant eux comme un mur qui marche. Bientôt, nous nous trouvâmes à la hauteur du couloir de la rue Saint-Lazare. Martin Numa passa par un côté de la toile. Il alla écouter et voir. Puis, revenant à nous, il nous dit tout bas,
Ça y est, allons-y. » Prosper et Philippe rejetèrent la toile qui nous garantissait, par terre. Cette toile, de même couleur que la muraille, nous avait protégés. Le chien, en la sentant, avait fui, s'était écarté. Et la lumière des gens qui inspectaient le couloir s'était promenée sur elle sans pouvoir la distinguer du mur véritable. Nous étions à quelques mètres de ces hommes et ils n'eurent pas le moindre soupçon de notre présence. C'était un des stratagèmes de Martin Numa, et cette fois, il avait grandement réussi. Nous attendîmes quelques instants, puis Martin Numa s'élança et nous le suivîmes de près. On m'avait montré, chemin faisant, le moyen de marcher dans cette boue sans faire de bruit, sans faire clapoter la fange. Il s'agissait de mettre, non pas le talon en premier, comme il arrive lorsqu'on marche sur la terre dure, mais au contraire, le bout du pied, comme font les danseuses. Ainsi le pied, formant pointe, s'enfonçait sans bruit dans le limon. Nous avancions sans trop de fatigue, retirant les pieds sans qu'il y eût cet appel d'air, cette sorte de succion qui forme ce bruit caractéristique du pas dans la boue gluante et tenace. Il faut ajouter que nous avions un habit d'égoutier un peu fantaisiste. En effet, comme nous n'avions pas aujourd'hui un rôle d'égoutier véritable, et que nous allions plutôt à la chasse d'égoutiers fantastiques, nous étions équipés en conséquence. Nous avions bien le bourgeron épais en toile bleue et une veste de cuir par-dessus pour nous garantir de l'humidité et des suintements souterrains. Mais au lieu des grosses bottes traditionnelles, nous avions des bottes de chasse pour marais, en caoutchouc, qui nous garantissaient du froid, de la boue et de l'eau, et qui, bien plus légères, nous permettaient de marcher rapidement et sans bruit. Tout à coup, Martin Numa étendit le bras et nous dit tout bas « Halte !» Nous entendîmes alors un bruit qui était non pas celui de pas de gens venant par ici, mais un bruit plus rapide qui nous arrivait directement du souterrain, que nous devinions être produit à peu de distance de nous. On eût dit des gens tapant sur une enclume de liège avec des marteaux en bois. Le tapage de ces ouvriers mystérieux venait de droite. Martin Numa se dirigea de ce côté, nous le suivîmes. Nous allions maintenant pas à pas, lentement, non seulement invisibles, mais sans produire le moindre froissement d'effet qui pût nous trahir. Cette marche silencieuse était, même pour nous, des plus impressionnantes. Nous nous rapprochions à chaque pas de la source du bruit inquiétant, et bientôt, nous eûmes la sensation qu'une simple muraille, voire une porte, nous séparait du local où les coups de marteau assourdis, par un moyen que nous ignorions encore, se donnaient consciencieusement. Tout à coup, Martin Numa étendit la main et toucha la muraille en face de lui. Il chercha du bout des doigts un instant. Puis il glissa dans une ouverture qu'il découvrit un instrument de fer. Il appuya fortement. Une porte s'ouvrit et nous fûmes inondés de lumière. Il y avait là, dans une salle éclairée, six égoutiers qui travaillaient sans se douter aucunement de notre approche. Et ces six égoutiers fabriquaient, sur des presses, des faux billets de banque. « Que personne ne bouge !» s'écria Martin Numa. Tous les hommes se retournèrent d'un coup, comme mus par un ressort extrêmement puissant, et regardèrent celui qui venait de prononcer ces paroles. Il y eut un cri « Martin Numa !» Une panique effroyable s'empara de ces hommes. Ils bondirent et se ruèrent vers un angle de la pièce. Deux seulement d'entre eux purent fuir. Un troisième se trouva pris dans cette porte. Ceux qui étaient penchés sur un four chimique se dressèrent immédiatement, s'armèrent de revolvers qu'ils prirent dans leur tablier de cuir, et ils tirèrent de notre côté. Martin Numa bondit sur l'un d'eux. Il engagea avec lui une lutte terrible pour le désarmer, avant qu'il ait pu décharger toutes les cartouches de son revolver. Prosper et Philippe s'étaient précipités de leur côté sur les deux autres hommes. Mais celui qui était libre tenait à la main un creuset rempli de métal en fusion pour caractère d'imprimerie. Il voulut, pour défendre ses amis, arroser Prosper. Un coup de pied de Philippe qu'il reçut dans l'estomac détourna le creuset et fit tomber le contenu sur le complice qui se trouvait pris par la porte que les hommes de l'autre côté poussaient pour la fermer. Sous le coup de la douleur épouvantable, l'homme se mit à hurler et l'on sentait sa chair brûler sous le métal en fusion. Dans un mouvement de suprême résistance, il fit un effort terrible, et la porte à demi fermée s'ouvrit toute grande. L'homme qui avait jeté le métal en fusion fit un bond désespéré. Il tomba comme une trompe sur Prosper, lui donna un coup de tête et l'envoya rouler à deux pas. Avant que Philippe n'ait pu l'atteindre, il se sauvait par cette ouverture. Il l'échappait, refermant derrière lui cette porte de fer sur laquelle Philippe et Prosper s'acharnèrent, essayant de l'ouvrir. Martin Numa s'était rendu maître de son adversaire, qui gisait maintenant à terre, sans connaissance. Martin Numa, se relevant alors après cette lutte terrible, envisagea d'un coup d'œil la situation. Il vit qu'il était seul avec ses hommes et son prisonnier dans ce réduit. Alors, se baissant de nouveau, il chargea sur son épaule l'homme évanoui et nous dit « Partons, partons vite !» Comme nous sortions de cet atelier de faux monnayeurs, des coups de feu retentirent par la porte du fond, à nouveau entrebâillée. Martin Numa, qui venait le dernier, vit s'étoiler autour de lui des balles de revolver sur le mur, les entendit siffler à ses oreilles, et il sentit en même temps que l'homme qu'il portait sur le dos tressaillait tout à coup, avait un frémissement, comme une convulsion de suprême douleur. Quelques secondes à peine s'étaient écoulées depuis cette dernière fusillade que tout à coup la terre trembla sous nos pas et nous fûmes inondés de gravats, de boue, de terre et d'objets de toutes sortes. Pour ma part, moi qu'on avait fait passer en premier, je fus projeté au loin contre un mur. Prosper et Philippe, de leur côté, furent également lancés dans des directions différentes et nous entendîmes le bruit sourd de la voûte qui s'éboulait. Les faux monnayeurs, pour faire disparaître toute trace, venaient de faire sauter leur atelier clandestin. Quand tous trois, Prosper, Philippe et moi, remis de cette secousse formidable, après d'ailleurs un assez long moment, nous appelâmes chacun de notre côté. « Martin Numa !»«
Chef !»«
Prosper !»«
Philippe !»«
Monsieur Courville !»
Trois voix répondirent, trois voix dirent sur des tons différents mais clairs et saisissants
« Présent !»«
Voilà !»«
Ici !»
En même temps, nous pûmes reconnaître ces voix. « C'est vous, Monsieur Courville ?»«
Parfaitement, moi. »
« Pas blessé ?
Non.
Un peu assommé, mais rien de cassé. »«
Bon. »
Deux demandes différentes. « C'est toi, Prosper ? » ?»«
C'est toi, Philippe ?»
Deux réponses.
« Pas blessé ? » ?»«
Non, rien. » Et un triple cri d'inquiétude cette fois.
« Martin Numa, chef, où êtes-vous ? »
Hélas, pas de réponse. Prosper appela encore.
« Chef, chef, où êtes-vous ? »
Nous précipitâmes vers la porte du souterrain. Le souterrain avait été détruit par l'explosion. On ne voyait plus là qu'un amas de décombres, de pans de murs, de boue noirâtre. Et d'une conduite de gaz crevée, le gaz s'échappait et, enflammé, brûlait comme une cascade de feu. Quant à Martin Numa, il avait disparu.